Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner durant cette année d'excellence. Bonne année.
Priorité Santé, pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité Santé, question de femmes.
Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette émission qui va, à nouveau, vous donner l'occasion de vous exprimer. Aujourd'hui, il sera question des conflits, gestion et résolution des tensions, des disputes, des crises, quel que soit le degré d'intensité du désaccord. Mésentente, reproche, agressivité, au travail, en famille, dans le couple, chacun, chacune d'entre nous a vécu ces moments où le ton monte, où l'échange dérape et ce qui devait être une simple conversation dégénère. La confrontation l'emporte sur l'harmonie et cela peut, dans le pire des cas, se traduire par des cris, des insultes ou à l'autre extrémité, le blocage, le silence. Des conflits qui peuvent pousser à renoncer à certains projets. Des conflits qui peuvent éloigner de personnes à qui pourtant on tient énormément. Des conflits qui peuvent placer l'individu dans une situation de très grande vulnérabilité. Alors comment sortir de ces situations difficiles? Est-ce que certains conflits peuvent être bénéfiques? Pourquoi certaines personnes semblent-elles ne fonctionner que par et pour le conflit et semblent presque s'épanouir dans l'épreuve de force? Peut-on élaborer des stratégies pour retrouver la sérénité? Autant de questions que nous allons aborder au cours de cette émission en compagnie de notre invité. Bras de fer, querelle, rivalité, affrontement, finir avec tous les conflits et surtout répondre à toutes vos questions. Professeur Pape Lamine Faye, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes psychiatre au CHU de Fan à Dakar au Sénégal, professeur maître de conférences agrégé de psychiatrie. Et nous vous retrouvons dans les studios en full day mandacant de RFI à Dakar, dont nous remercions toute l'équipe pour son accueil.
Notre santé, si on en parlait.
Alors conflit, mode d'emploi évidemment, non pas pour les fabriquer mais bien pour les dénouer et pourquoi pas les déjouer. C'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, professeur Pape Lamine Faye, les conflits ça fait presque partie du quotidien. Est-ce que pour certaines personnes ça va jusqu'à être presque un mode de fonctionnement?
Le conflit fait partie du quotidien, ça c'est très évident. D'autant plus que dans le quotidien, nous avons des points de vue qui sont parfois différents. Nous avons des centres d'intérêt qui sont aussi différents, ce qui fait que parfois, ça risque de constituer des points de désaccord sur lesquels il va falloir trouver un consensus et l'harmonie pour bien fonctionner. Après, il y a des gens, effectivement, qui semblent donner l'impression d'être bien dans le conflit, parce que tout simplement, c'est lié à leur personnalité. C'est des gens qui ont tout le temps envie, peut-être, d'avoir une certaine relation de domination vis-à-vis de l'autre. Ce qui fait que réagir sur le mode conflictuel est quelque chose qui les installe bien dans leur manière de fonctionner. Et il y a un certain nombre de stratégies à mettre en place pour effectivement s'en protéger et s'en sortir au mieux.
Et ça ne veut pas dire que plus on a d'interactions avec le monde qui nous entoure, plus on a de conflits, parce qu'il y a des personnes qui sont plutôt solitaires, mais qui, quand elles entrent en relation avec les autres, eh bien, on va dire trivialement, ça tourne au vinaigre.
On ne peut pas éviter le conflit. Le conflit fait partie du processus naturel de la vie. Tant qu'il y a des hommes, il y aura des crises. Maintenant, étant donné qu'on ne peut pas l'éviter, il va falloir le gérer. Et quand on l'évite, c'est tout le contraire que l'on va produire. Ça peut être très destructeur, ça peut être très négatif, puisqu'on a fui le conflit alors que l'idéal aurait été de pouvoir la gérer.
Alors tout à l'heure, on parlait des gens qui se mettent en colère tout le temps, hein, qui passent tout le temps par le conflit. Est-ce qu'à l'inverse, professeur Pape Lamine Faye, quelqu'un qui est d'une sérénité absolue, qui ne s'énerve jamais, c'est quelque chose de louche ou c'est quelque chose qui peut être tout à fait sain?
Je considère que c'est quelque chose qui peut être malsain, parce que généralement, c'est des attitudes qui rentrent un peu dans l'évitement du conflit. Tant qu'on est un être vivant, on ressent des choses. Et effectivement, il peut arriver que quelqu'un pose des actes en face de nous, qui contreviennent un peu à nos valeurs, à nos besoins, à nos désirs. Et à partir de ce moment, on ressent une certaine forme de frustration, on ressent de la tristesse, et les émotions sont là pour signaler que les besoins ont été frustrés. Et faire preuve d'affirmation de soi, c'est oser en parler, pour amener l'autre à comprendre ce qui nourrit notre bien-être. Et si on s'était, peut-être que c'est pas parce que c'est pas trop grave, mais quand c'est une manière d'être qui est là, qui perdure, et que justement on ressent de la souffrance, ça veut dire que c'est pas du tout normal.
Justement, ces conflits, ils peuvent être source d'émotions très diverses, la peur, la colère, la tristesse. Alors pourquoi certains vivent ces conflits de manière très douloureuse quand d'autres semblent passer à travers quasi l'impassibilité?
Après, ça peut être lié à la manière dont nous sommes organisés par rapport à notre personnalité. Quand on a eu des blessures qui sont là depuis très longtemps, qui sont liées à notre enfance, il peut arriver dans notre vie de tous les jours qu'il y ait des situations qui vont réveiller ces blessures et qui vont nous mettre en opposition avec l'autre. Après, certaines personnes, effectivement, pour ne pas en souffrir, préfèrent ne pas trop se confronter à ça parce que ça ravive la blessure. Par contre, d'autres sont sur le mode contre-attaque par rapport à leur souffrance. Une fois que la blessure est réveillée, ils vont contre-attaquer pour pouvoir la taire, se décharger. Parfois, ça peut être productif, parfois, ça peut être contre-productif, justement. Tout dépend de la manière dont le conflit est abordé et la manière dont on communique avec l'autre.
Et cette façon de réagir que décrit à Dakar, chez vous, professeur Faye, Marie, qui explique qu'elle réagit, elle, très mal au conflit sur Facebook. Elle explique « Soit j'éclate, et ce n'est pas beau à voir, soit je fais de la rétention, mais une fois que l'on a réussi à passer à autre chose, eh bien Marie dit qu'elle garde toujours en elle ce ressenti qu'elle rumine. Hein, ruminer, c'est le verbe qu'elle emploie. Ça veut dire que des fois, on a l'impression qu'elle regrette presque de ne pas s'être mise en colère. »
Exactement. C'est-à-dire que ça, c'est un genre de personne qui passe d'un extrême à l'autre. Quand on est dans la rétention, on finit par exploser parce qu'il y a une accumulation de frustration qui est là. À un moment donné, on atteint un seuil de rupture et on explose. Et généralement, on va exploser pour un détail qui peut paraître minime parce que tout simplement, on a accumulé de la frustration. Et l'idéal pour Marie, ce serait justement de pouvoir d'abord être sensible et conscient de ce qu'il ressent et de pouvoir en parler toujours à temps réel. Parce que c'est important, dans le cas contraire, ça peut détériorer la relation puisque les gens verront des réactions extrêmement explosives.
Alors l'enjeu, c'est bien de trouver des pistes pour aussi éviter les conflits. Pour illustrer ce propos, la palabre au féminin. Et cela se passe toujours au micro de Charlie Dupio à Corbeil-Essonne, en région parisienne. On va retrouver Fifi et Fatoumata. Elles ont toutes les deux 41 ans. Et c'est Fatoumata qui lance la discussion.
Je fuis les conflits. J'aime pas les conflits. Je communique quoi ? Je communique beaucoup. Et puis je suis une personne, quand je sais que quelque chose, ça dérange l'autre, j'évite de le faire. À moins de le faire sans m'en rendre compte. Et si jamais il y a des malentendus quelque part, je préfère discuter.
Moi, par contre, je suis du genre, des fois je fouille, des fois je viens et puis je casse la baraque et puis on n'en parle plus, quoi.
Fille, tu fais des baraques comment ?
Je viens là, j'écris et puis, hey, c'est quoi ? Je te vois venir, c'est quoi ton problème ? Tout le monde, même à la famille, me connaît comme ça. Hey, celle-là.
C'est une bagarreuse, ça ?
Non, je ne me bats pas. J'affronte, je te dis, arrête, c'est pas bon. Arrête, je vais me fâcher. Du moins, je viens, je te parle tout bonnement.
J'avertis d'abord.
Avant que je cesse de parler avec toi, je dois t'avertir.
Et dernièrement, il y a eu un conflit entre... En fait, moi, je suis coach. Il y avait une autre dame aussi, elle avait son cabinet à côté du mien. On était côte à côte. Donc, quand elle avait des clients, quand elle parlait, ça résonnait chez moi, vice-versa.
Donc, ce n'était pas insonorisé entre vos deux cabinets.
C'est ça. Moi, je tolérais plus, mais elle ne tolérait pas du tout. Elle n'arrêtait pas tout le temps de toquer pour dire qu'on l'a dérangée. Donc, des fois, je reçois des personnes, elles ont envie de parler. Chez elles sont stressées et tout. Dès qu'elles viennent me voir, elles ont envie de s'éclater, de rigoler, de parler parce que j'aime bien taquiner, rigoler avec les gens. Quand elles toquaient et qu'il y avait des personnes, tout le monde se taisait. Et moi, ça m'a fait perdre la clientèle. Après, un jour, je suis partie la voir dans son bureau. Ben, je lui ai dit, vous savez, je fais le maximum de ne pas faire de bruit. Mais mes clientes qui arrivent, je ne peux pas à chaque fois, quand elles arrivent, je lui ai dit, hey, non, stop. Mais après, elle ne supportait pas. À chaque fois, elle venait toquer et tout. À un moment donné, j'ai trouvé que ça ne pouvait plus continuer. Finalement, j'ai préféré partir aussi.
Vous avez quitté ce lieu de travail, ce cabinet, pour la fuir un petit peu.
Pour la fuir, parce que pour fuir les conflits, parce que c'était désagréable. Quand on est en conflit, le climat devient invivable. Parce que vous êtes côte à côte. Dès que je passe, elle est là. Quand elle vient aussi, je sens sa présence. Et moi, j'aime pas qu'on ne se parle pas à cause de ce petit problème. J'ai arrêté, j'ai coupé tout court.
Moi, je ne sais pas si je vais appeler ça conflit et tout, qui est même récent jusqu'à maintenant avec ma mère. Moi, je suis l'aînée. On est à trois chez ma mère. Ma mère, elle était, en fait, peut-être que ça va m'aider aussi à en parler et puis ça va me défouler. Il s'est passé un problème là, avec ma mère. Excusez-moi, nous, on est du pays, on doit envoyer. Moi, je suis arrivée, je n'ai pas encore commencé à travailler, je ne pouvais pas travailler dans le noir. Le pain que j'ai, j'essaie d'aider. Donc, quand tu donnes plus, elle t'aime plus. C'est notre sœur cadette qui donne plus. Il y a à chaque fois la petite qui dit, quand elle parle, elle dit mal, celle-là, elle n'en voit rien, elle dit beaucoup de choses. Maman, elle ne m'appelle plus. Elle m'appelait tout le temps. Elle ne m'appelle plus. Parce que c'est la vieillesse, où elle ne travaille plus, elle ne gagne plus son argent, je ne sais pas, mais je ne sens pas cet amour-là. On me dit, toi, appelle-la. Moi, je dis, si j'appelle-la maintenant, je veux m'énerver.
C'est pour ça que tu ne l'appelles pas. Parce que je me disais, c'est elle, c'est toi la fille. Même si c'est maman qui n'appelle pas, toi, appelle-la pour savoir.
Moi, je suis du genre à attaquer. Parce que là, si c'était une autre personne, peut-être j'allais parler mal et puis on allait mal se séparer. C'est ma mère. Je peux pas crier sur elle. Je ne sais pas ce qui se passe avec elle.
Si tu l'appelles pour crier sur elle, oui, pourquoi tu ne m'appelles pas? Alors là, tu vas tout gâcher.
Mais moi-même, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait à ma mère pour arriver jusqu'à ces points? Depuis le mois après le mois de juin, je crois juillet, août, qu'elle ne m'appelle plus.
Tu ne dois pas attendre qu'elle vienne vers toi. C'est à toi d'appeler, prends ton courage en main et appelle-la. Et si elle te demande de l'argent et des choses et que tu ne sais pas, ne lui cache pas ta situation. C'est une maman.
Bon, je me calme un peu. Je veux voir comment est-ce que le temps, c'est un bon remède. J'attends. Et puis, quand ça va, la poussière va un peu baisser. Et puis, voilà, je vais parler avec elle.
Des propos recueillis par Charlie Dupiot. Et là, on l'a bien entendu, hein, cette émotion qui n'est même plus contenue. Les larmes sont là parce que ça fait mal de ne pas s'expliquer quand on a quelque chose sur le cœur, professeur Pape Lamine Faye.
Et pourtant, elle comprend ce qui se passe exactement. C'est juste que c'est l'attitude de sa mère qui lui fait extrêmement mal. Parce que comment elle en parle, c'est presque un amour conditionnel. Comme elle le dit, quand tu donnes plus, tu reçois plus d'amour. Et étant donné qu'elle ne peut pas rentrer en conflit avec sa mère, finalement, elle préfère éviter le conflit.
Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette notion de grand respect par rapport aux aînés dans certaines cultures qui jouent. On ne peut pas se permettre de dire non. On ne peut pas se permettre de dire maintenant, ça suffit.
Exactement. Et donc, certaines émotions sont interdites, comme la colère vis-à-vis d'un ascendant, ce qui fait qu'on est obligé de l'intérioriser. Et une colère intériorisée se transforme en tristesse. Et à force de perdurer, ça peut devenir même de la dépression.
Alors, professeur Faye, c'est d'abord une auditrice d'Haïti qui s'est confiée à Priorité Santé. Et elle témoigne, c'est Lona, par l'intermédiaire du répondeur de l'émission. Lona, qui se dit rapidement dépassée par ses émotions. On l'écoute.
Bonjour Priorité Santé, je suis Lona, je vous suis depuis Haïti. Moi, je n'aime pas être en conflit. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je suis en conflit ou en colère, je perds la pédale, je pleure. Mon cœur bat à une vitesse qui est anormale. C'est pour cette raison que je préfère garder mon silence et de prendre la distance. Dernièrement, j'ai perdu ma meilleure amie, je pourrais dire ça. On est amis depuis 7 ans et je l'ai perdu. Comment? C'est parce que, pour une raison aussi banale, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Pour ça, elle a décidé d'être en colère envers moi, de me dire des choses blessantes. Quand ça est arrivé, j'ai écouté de la musique. J'ai pas répondu à elle, j'ai écouté de la musique, j'ai effacé son numéro de mon téléphone, j'ai effacé toutes les photos qui nous unissaient ensemble, j'ai effacé tout ça, et puis c'est comme ça. Je peux pas l'expliquer, ma réaction, mais c'est comme ça. Merci.
Lona, on la remercie pour son message, professeur. Là aussi, on a même l'impression que cette auditrice revit les sensations quand elle raconte son histoire. on entend là encore de la souffrance. On a dit j'arrête tout contact, je me mets un petit peu en retrait, mais en fait à l'intérieur ça continue de bouillonner.
Ça continue de bouillonner et partir, s'éloigner, c'est pas forcément la meilleure solution. Elle ressent de la colère, mais c'est comme si elle se l'interdit finalement, ça lui donne des palpitations. Ça la fait pleurer parce qu'elle a intériorisé encore une fois cette colère qui est devenue de la tristesse. Elle est dans la confusion des émotions. Or, ce qu'elle doit comprendre, c'est que ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on ne communique pas, c'est parce qu'on ne communique pas que c'est difficile.
Ça veut dire que vous lui conseilleriez, excusez-moi de vous interrompre, professeur, vous lui conseilleriez de faire un geste vers son ami?
Oui, attendre un peu que ses émotions se calment et demander quand même à lui parler. Parce que c'est à partir de là qu'elle va pouvoir extérioriser, en tout cas exprimer ce qu'elle ressent. Parce que la finalité de toute émotion, c'est d'être exprimée. Si vous ne l'exprimez pas par le verbe, vous risquez d'être dans le passage à l'acte, c'est-à-dire ça va transparaître peut-être dans votre comportement et vous allez l'exprimer peut-être dans des contextes qui sont inappropriés parce que la colère, elle est là et elle attend. Mais elle doit reprendre contact avec son ami pour ne pas perdre cette relation. Et c'est vrai que ça a été à un moment donné un peu violent, mais il est toujours possible d'en parler. Comment son attitude a impacté sur son bien-être, comment elle souhaiterait que cet ami se comporte la prochaine fois, et ça va peut-être permettre de repartir sur de nouvelles bases.
L'importance de communiquer, on va justement donner la parole à une première auditrice. En ligne, c'est un appel du Cameroun.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
Et c'est Liliane qui est avec nous en ligne de Yaoundé. Liliane, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour professeur.
Alors,
bonjour Liliane.
Liliane, vous avez 33 ans. On va dire que vous vous présentez comme quelqu'un de plutôt posé. Ça veut dire que vous vous mettez rarement en colère?
Ah non, pas du tout. Je suis comme tout le monde. Mais avant même, j'étais quelqu'un d'extrêmement colérique, c'est-à-dire que j'exprimais systématiquement la colère. Mais justement, quand j'ai compris que ça fait perdre des amis, ça crée beaucoup de problèmes avec la famille et au final, on est malheureux. Donc, j'ai décidé d'essayer de trouver des solutions pour gérer ma colère.
Et comment vous faites? Vous mettez à l'écart? C'est quoi votre comportement?
Alors, quand je suis très en colère, comme j'adore écrire, je me suis acheté un petit cahier que j'appelle le journal des angoisses. Alors, dans mon cahier, j'écris toutes les émotions négatives que je ressens sur le moment. Ça me permet de me calmer et d'écrire toutes les mauvaises choses que je pense sans blesser personne. Et quand j'ai un peu repris mes esprits, je peux aller vers les autres et expliquer calmement ce qui me met en colère et pourquoi cette situation me met en colère sans chercher à les blesser et en étant dans un état d'esprit où malgré tout je suis disposée à les écouter.
Excusez-moi Liliane, un petit détail. Au fur et à mesure, vous déchirez les pages et vous faites disparaître ces empreintes de la colère ou vous gardez tout dans votre petit carnet de la colère?
Ah non, je les garde. Parfois, les relire, c'est rigolo. Et je me dis, mais comment j'ai pu penser ça? C'est drôle.
Mais il ne faut pas qu'il tombe entre toutes les mains, hein, ce carnet, parce qu'on doit y lire des choses qui ne sont pas très gentilles.
Oui, il est très bien caché. C'est ma méthode à moi pour me canaliser.
On va dire que c'est une stratégie de mise à distance. Est-ce que ça marche? Parce que peut-être qu'il y a des auditrices ou des auditeurs qui écoutent et qui se disent, moi aussi, je vais ouvrir mon petit carnet de la colère. Si ça marche chez Liliane, peut-être que ça va marcher chez moi. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, ça marche parce que l'écriture a toujours été mon exutoire. Donc. Mais je dirais qu'il y en a d'autres qui se sentent bien quand ils font du sport, ou je ne sais pas, quand ils vont écouter la musique, quand ils vont regarder un film. Je pense qu'il faut, quand on est très en colère, il faut d'abord trouver le moyen de se calmer.
La méthode Liliane, cette réflexion, vous l'avez conçue, vous l'avez échafaudée toute seule ou vous avez échangé avec quelqu'un de l'extérieur qui vous a suggéré cette idée?
Je me rappelle, quand j'étais à la fac, j'avais un ami qui un jour est tombé malencontreusement sur un de mes carnets. À l'époque, je ne marquais pas forcément toutes mes mauvaises émotions. Et il m'a dit, tu sais quoi? Tu devrais écrire tout ce que tu ressens, ça te fera du bien de temps en temps. Et je me suis dit que oui, pourquoi pas. Donc, écrire tout ce que je ressens de négatif, ça me permet de me venger sur le papier et de redevenir normal et pour pouvoir aller vers les autres ensuite.
Alors, le regard du spécialiste professeur Pape Lamine Faye, c'est vrai que chez certains psys, on peut même vous conseiller ce genre de démarche, hein.
Absolument, c'est une excellente méthode et on l'appelle la corbeille à papier mental. À la seule différence avec Liliane, qu'elle ne déchire pas, qu'elle garde avec elle. Mais habituellement, quand vous ruminez des émotions, des pensées qui sont extrêmement difficiles, ce qu'on vous conseille, c'est de les coucher sur du papier. C'est-à-dire, c'est comme si vous projetez à l'extérieur ce qui se joue à l'intérieur de vous. Et ça permet un tout petit peu d'atténuer le sentiment de souffrance. Et ça fait énormément de bien. Et ça permet justement, dans un troisième temps, d'aller peut-être vers la personne concernée, votre interlocuteur, et de pouvoir lui parler beaucoup plus calmement.
Et c'est vrai qu'on peut même le conseiller à des enfants, hein, quand ils sont très en colère, même de faire un dessin qui représente la cause de leur colère, et puis après de chiffonner ce papier pour se défouler, ça peut les aider.
C'est d'autant plus important de les conseiller aux enfants qu'habituellement, l'éducation ne prend pas forcément en compte les émotions. C'est comme si l'émotion, quelque part, elle est censurée. L'émotion ne doit pas faire partie de notre quotidien. Quand un enfant pleure, on lui dit « arrête de pleurer ». Quand un enfant a peur, on lui dit « pourquoi tu as peur ?» Au point que l'émotion devient presque une sorte d'intruse. Et donner la possibilité à l'enfant justement d'écrire, c'est lui permettre justement de mettre des mots sur ce qu'il ressent et lui permettre de grandir et de mieux se connaître.
Et professeur Paplamine Faye, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, on entend bien que Liliane, elle a justement un mode de communication, mais pas d'interaction, il n'y a pas de confrontation. Est-ce que pour autant, ça va l'aider ? On a bien compris, hein, elle n'est ni soumise ni victime, elle fait passer la colère. Est-ce que c'est quelque chose de positif pour elle ?
Alors, moi j'avais pu comprendre qu'elle est après dans l'interaction, mais si elle n'est pas dans l'interaction, la stratégie n'est pas complète. Ça veut dire que peut-être effectivement elle va pouvoir se décharger un tout petit peu, mais idéalement il faut qu'elle ose affronter les situations, parler du conflit, et ça va permettre davantage de préserver les relations. D'autant plus que de là où elle vient, elle était assez impulsive et colérique. Elle s'est rendue compte que sur le plan relationnel, ça avait un coût parce qu'elle perdait des amis. Maintenant, il va falloir développer beaucoup plus d'assertivité, beaucoup plus d'affirmation de soi, en faisant en sorte que cette colère puisse être exprimée, mais de façon calme. Et justement, utiliser le journal, l'écrire, ça permet d'atténuer l'intensité de la colère. Et en passant, Liliane, moi, je vous suggère plutôt de dire « journal des émotions » au lieu de « journal des angoisses ». Parce qu'il n'y a pas que l'angoisse, il y a de la colère aussi.
Et Liliane, vous mettez la poussière sous le tapis ou vous expliquez quand même à vos contradicteurs que vous n'étiez quand même pas tout à fait d'accord avec eux, sans crier, sans vous énerver, mais dire que finalement, vous défendez un petit peu vos positions?
Oui, bien sûr. Après, le moment le plus désagréable de la colère, quand je suis calme, je reviens toujours vers l'autre pour lui expliquer ce qui n'a pas marché. Et c'est souvent intéressant parce que quand on est prêt à discuter, c'est-à-dire quand on est prêt à écouter, parfois on se rend compte qu'on a eu peur d'être en colère et qu'on s'est simplement mépris sur la situation et qu'il n'y avait pas de quoi fêter à ça. Et on se félicite de ne pas avoir fêté les plans trop vite.
Et oui, professeur Faye, on a vraiment l'impression que Liliane, elle a presque tout compris.
Oui, Liliane, elle a fait le plus difficile. C'est-à-dire que c'est souvent la manière dont la frustration est dite qui pose problème et fait que justement les relations cassent. Parce que comme on le dit très souvent, on est vu avant d'être entendu. Quand vous venez avec de la colère, la personne ne vous écoute plus, elle ne fait que vous regarder et du coup elle est rapidement sur la défensive parce que vous devenez une sorte de menace. Mais comme fait Liliane, quand vous parvenez justement à canaliser votre colère, à la calmer en utilisant le papier ou toute autre chose, après ça permet d'aborder la situation de façon calme et l'autre est plus réceptif.
On remercie beaucoup Liliane pour son témoignage, également pour son choix musical. Et ce choix, c'est la guitare, c'est l'harmonica et surtout la voix d'Ismaëlo avec Dibi Dibirek. Dibi Dibirek, ah Dibi Dibirek, ah Dibi Dibirek. Dibi Dibirek, ah Dibi Dibirek, ah Dibi Dibirek. Yangi degerlu wante monoko ul so bay ñu jëliko Yangi di rog balé bu ñu taxawal andax yow lekkoto Yangi bëgg dé ndax yow nanato ul so bay ñu jëliko ndax mo lay maj do dibi dibi rek Ah, dibi dibi rek, ah, dibi dibi rek, dibi dibi rek, ah, dibi dibi rek, ah, dibi dibi rek. Priorité santé sur RFI, question de femmes, comment gérer les conflits dans le couple, en famille, au travail. Et pour vous répondre, nous sommes toujours avec à Dakar dans les studios en full day, Mandakan de RFI, avec le professeur Pape Lamine Faye, psychiatre au CHU de Fan. Et c'est du Tchad, hein, de N'Djamena, qu'Isabelle nous a envoyé ce message sur le répondeur de Priorité santé. On l'écoute tout de suite.
Bonjour à toute l'équipe Priorité santé, mes voeux les meilleurs pour l'année 2022. Je suis Isabelle, j'ai 37 ans. Je suis N'Djamena au Tchad. Par rapport à la question de gestion des conflits, j'ai ma petite histoire et j'ai besoin de vos conseils. Je suis une personne qui aime trop les blagues, mais déteste les conflits. J'ai une collègue qu'on partage le même bureau depuis bientôt un an. On ne se communique pas vraiment. Le matin, bonjour, bonjour. Le soir, au revoir et au revoir. Lors de son stage, la collaboration était parfaite. Tout a commencé après avoir été maintenu. Ah, j'avais trop de tâches à moi seule, donc il va falloir la maintenir pour lui donner une partie de mes tâches. J'étais très personnellement contente à l'idée qu'elle soit maintenue et partagée avec moi mes tâches. Cela évitera ce que je revienne travailler les week-ends. Mais à ma grande surprise, ma collègue me jetait les pots de bananes en faisant croire à mes chefs que je ne connaissais rien, mais plutôt elle. En plus de cela, elle est trop arrogante et irrespectueuse, avec une manière de parler à impératif, alors que moi je suis une personne qui respecte tout le monde et je veux que ce respect soit réciproque. Lors de notre dernière dispute, je lui ai fait savoir pour éviter des conflits à venir, je dois m'abstenir d'elle. Dès lors, chacun est dans son petit coin, mais les autres collègues ne me laissent pas et me demandent de revenir à mon bon sentiment. Alors, que me conseillerez-vous?
Alors, on entend Isabelle en difficulté avec une de ses collègues. Il y a eu des disputes. Aujourd'hui, la communication est bloquée. Et c'est donc à Isabelle que l'on demande d'aller vers sa collègue. Elle a besoin de vos conseils, professeur Pape Lamine Faye. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Alors, c'est une situation. La situation était bien au début, quand justement cette collègue était en stage. Cela veut dire qu'il est tout à fait possible que ça redevienne comme avant. Mais il va falloir suivre un certain nombre d'étapes. Étant donné que c'est une personne qu'elle trouve arrogante, irrespectueuse, donc je vois mal, justement, Isabelle aller vers elle. Ce que je lui conseillerais, c'est quand ses collègues vont revenir vers elle et lui dire « reviens à de bons sentiments », il peut juste leur demander « écoutez, si vous voulez que ça redevienne comme avant, moi je vous demanderai tout simplement de faire cette démarche de médiation pour essayer de nous réconcilier. » Première étape. Maintenant, la seconde étape, ce sera justement de se poser avec son collègue en privé et dans un premier temps de valoriser son travail. Juste lui dire, écoute, je sais que tu es une personne compétente, tu as de l'efficacité professionnelle, mais tu n'as pas besoin de casser mon image pour faire valoir tes compétences. Et lui dire qu'il faut qu'on travaille dans l'intelligence, dans le respect. Ça dit, il faut valoriser, ensuite dire exactement quels sont ses besoins en termes de respect, quels sont ses besoins en termes de considération, parce que c'est peut-être une collègue qui a envie d'être reconnue dans ce qu'elle est en train de faire, et finalement, elle est en train de démolir l'image d'Isabelle auprès de la hiérarchie. Mais c'est important dans un premier temps que ses collègues fassent la médiation pour les rapprocher, après qu'il y ait une discussion autour de ça.
Mais entre les lignes, professeur Faye, on entend aussi que d'une certaine manière, Isabelle n'a pas envie de se soumettre. On a l'impression qu'on lui a un petit peu manqué de respect. Et si elle faisait, elle, le premier geste, finalement, ce serait reconnaître la légitimité de l'arrogance de l'autre.
Mais ça, c'est totalement déconseillé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si elle fait le premier geste, le premier pas, elle initie la démarche, ça peut même être perçu par celle qu'elle considère comme une personne arrogante, comme un acte de faiblesse. C'est la raison pour laquelle je parle de la médiation, pour ne pas donner l'impression justement que c'est elle qui a besoin de cette réconciliation. Mais aujourd'hui, étant donné que ses collègues lui demandent de revenir à de meilleurs sentiments, ils peuvent lui dire, moi je ne fais pas le premier pas. Si vous avez envie que ça redevienne comme avant, autant que vous, vous fassiez la médiation. Et en ce moment, il y aura des choses peut-être qui vont être dites à cette collègue, et elle sera beaucoup plus disposée peut-être à avoir une discussion avec Isabelle, qui va mettre des mots sur ce qu'elle ressent, reconnaître ses compétences, mais amener cette collègue aussi à vraiment la respecter davantage dans ce qu'elle représente dans cette boîte.
Et c'est vrai que ça peut être extrêmement pesant hein, quand on va tous les jours au travail, en sachant qu'on va avoir une source de conflit sur place.
D'autant plus que c'est une personne avec qui elle partage le même bureau. Je vous dis que même quand on vous a fait du tort, le conflit reste une situation très énergivore. Ça vous dit que ça vous bouffe les émotions, vous n'êtes pas bien, vous manquez après d'énergie. C'est une situation très inconfortable et c'est la raison pour laquelle il faut aller vers l'apaisement en essayant de communiquer sur ce qui va mal.
Alors, on va reprendre le chemin du Cameroun avec un autre message de Christelle. Là encore, ça se passe sur le répondeur de Priorité Santé.
Bonjour à toute l'équipe de Priorité Santé. Alors, lorsque j'ai un souci avec une personne, j'ai généralement trois stratégies que j'adopte. Premièrement, je me retire complètement de l'affaire. Si c'est un dossier contre Itaï, que ce dossier a été la cause du conflit, je me retire complètement de l'affaire. Deuxièmement, je ne lui adresse plus la parole, c'est-à-dire qu'on va juste échanger de simples formalités, les bonjours, les bonsoirs, ainsi de suite. Troisièmement, j'écris. Je prends un papier et une feuille et c'est-à-dire que j'écris toutes sortes de choses méchantes que j'aurais dû lui dire en face. J'écris. Écrire me permet en fait d'extérioriser certaines frustrations, bien certaines phrases, certaines émotions que je n'ai pas pu lui dire en face, dont j'écris énormément. Et lorsque je me sens un tout petit peu légère, je déchire la feuille complètement. Et après, j'essaye un tout petit peu de renouer avec la personne. Quand je dis renouer, on ne va pas parler du sujet, mais on ira à un autre step en fait. On ne va pas aborder la problématique en question, mais on ira à un autre step de notre amitié ou bien de notre travail. Voilà, merci.
Alors tout à l'heure, on avait la méthode Liliane et voici donc la méthode Christelle qui utilise sa technique bien à elle pour dépasser les conflits. Le retrait est puis une sorte de lettre défouloir où elle vide son sac qu'elle n'envoie jamais. Et puis vient le temps de l'apaisement, même si le cœur du problème n'est plus abordé. Comment vous percevez tout cela, professeur Paplamine Faye?
Oui, c'est une démarche qui est très intéressante parce que, comme on l'a vu avec l'autre auditrice, effectivement, on se déconnecte à un moment donné de la situation, on essaie de se retrouver seul jusqu'à ce que les émotions se calment et s'apaisent. Maintenant, pour rendre la démarche beaucoup plus globale et encore plus constructive, je conseillerais à Christelle de prendre quand même son courage à deux mains et d'aborder le problème parce que maintenant, il est devenu beaucoup plus calme. Et ça va permettre vraiment de remettre les pendules à l'heure, ça va permettre de repartir sur de nouvelles bases et pour que ça ne se reproduise plus. Et une fois qu'elle va le faire, elle va se sentir davantage fière d'elle parce qu'elle aura franchi le pas, elle se sera respectée, ça va réorganiser la relation autrement.
Mais ça veut déjà dire, comme Christelle, hein, quand on a réfléchi et même élaboré une sorte de recette ou de stratégie, ça veut dire qu'on s'est déjà arrêté pour y réfléchir et que dans une certaine proportion, professeur Paplamine Faye, une partie du travail a déjà été fait.
Mais absolument, parce qu'au début, elle dit « je me retire complètement de l'affaire ». Ça veut dire qu'elle n'a même plus envie d'y penser, encore moins d'avoir contact avec cette personne. Ensuite viennent de petits échanges très formels, limités à des formules de politesse. Et c'est dans un troisième temps qu'elle va écrire dessus des choses méchantes qu'elle aurait envie de lui dire. Ça veut dire que c'est presque une démarche centripète. On va vers la périphérie, on va de la périphérie et on vient vers le centre. Et maintenant, au centre, il faut que la cerise sur le gâteau serait qu'elle puisse en discuter. Et je pense qu'étant donné maintenant qu'elle est beaucoup plus calme, que les choses se sont nettement apaisées, c'est le moment opportun pour pouvoir en parler, au lieu de faire comme si rien ne s'est passé. Et justement, avec ça, on est dans l'évitement du conflit et ça ne règle pas le problème pour autant.
Parce que, professeur, l'oubli, ce n'est pas la solution.
Non, ce n'est pas de l'oubli. Je pense que c'est une omission volontaire, peut-être par peur, effectivement, d'aborder le conflit. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'elle prenne son courage à deux mains et qu'elle ose aborder le conflit. Parce que dans le cas contraire, l'autre ne sait pas exactement où sont les limites et c'est une situation qui peut récidiver parce que vous êtes resté dans votre coin, vous n'avez pas donné de message, il n'y a pas eu de feedback par rapport à ce que vous avez vécu, comment vous avez souffert et par conséquent, l'autre peut récidiver et ça devient un comportement récurrent.
Alors, on a essayé depuis tout à l'heure de joindre Ndoya hein, à Dakar, qui nous avait contacté pour témoigner dans cette émission. Jean-Philippe y a mis toute la meilleure volonté du monde. Hélas, là, on n'y peut rien. La ligne est occupée. Alors, je vais me faire la porte-parole, comme ça arrive dans ces cas-là, de Ndoya. Elle a 29 ans. Elle est assez paisible, mais quand elle est en conflit, eh bien, c'est une rancunière. Elle ne pardonne pas. Elle explique qu'elle a une part belliqueuse et elle dit que c'est peut-être lié à sa petite taille. Bon, ça, je ne vais pas forcément juger là-dessus parce que moi-même, mesurant moins d'un mètre 60, je ne vais pas dire que c'est comme ça que je me défoule. Bref, on ne va pas toujours apporter les choses à soi. Elle dit que la seule fois où elle l'a donné une seconde chance, c'était à sa sœur. Parce que pour elle, la famille, évidemment, c'est très important. Par contre, quand elle était au lycée, elle avait une amie, une grande amie. Elles se sont disputées. On sent du regret hein, dans le témoignage de Ndoya parce qu'elle a essayé de reprendre contact avec cette personne pour s'excuser. Mais voilà, personne n'a répondu. Ndoya de Dakar espère peut-être d'ailleurs que cette amie est à l'écoute et qu'elle se reconnaîtra. Ça veut dire qu'on a en même temps Ndoya qui a choisi de calmer le jeu, mais aussi ça lui a fait perdre des liens importants dans son parcours.
Oui, Ndoya, j'ai presque envie de dire qu'elle a de la personnalité, elle a du caractère.
Et pourquoi ça vous fait rire ? Pourquoi ça vous fait rire ?
En fait, finalement, c'est-à-dire que c'est un caractère tellement fort qu'elle est dans la punition quand elle a l'impression que quelqu'un dépasse certaines limites ou bien lui manque de respect, en fin de compte. Et finalement, ça se retourne un peu contre elle, puisqu'elle semble un peu regretter, parce qu'elle dit qu'elle perd des amis quand même. Donc, ça veut dire qu'elle doit un peu lâcher prise, être plus dans de l'empathie, ne pas forcément casser complètement les relations. Et c'est comme une sorte de punition qu'elle inflige à l'autre. Et maintenant, ce que l'on constate, c'est comme si Ndoya, quand elle est en conflit, elle a l'impression que c'est parce qu'elle a une petite taille que cette personne, peut-être, voilà, ne lui donne pas le respect qu'elle devrait lui donner, elle n'a pas la considération dont elle devrait jouir, et c'est comme ça qu'elle l'explique. Et du coup, elle est en train de voir à travers le prisme de ce qu'elle considère comme peut-être une certaine imperfection. Moi, je lui conseillerais vraiment d'essayer de revisiter la relation qu'elle a avec elle-même. Est-ce qu'elle s'accepte? Comme vous, vous vous acceptez, bien sûr, Caroline.
Oh, il a fallu un peu de temps, hein? Il a fallu un peu de temps, quand même.
Est-ce qu'elle accepte cette petite taille? Il va falloir qu'elle se réconcilie avec ça, qu'elle accepte qu'elle est comme ça. Et le regard qu'elle va porter sur elle-même, elle n'aura pas l'impression que, effectivement, les gens la regardent à travers sa petite taille. Et je pense qu'une fois qu'elle aura réussi cet exercice, peut-être que ça va apaiser davantage les relations.
Moi, j'ai une impression générale par rapport au témoignage des auditrices. Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue, professeur Faye, c'est qu'elles ont quand même beaucoup de recul vis-à-vis d'elles-mêmes et elles sont capables de pointer certaines choses qui n'allaient pas. Ce n'est pas toujours évident, on ne rencontre pas ça chez tout le monde, de se regarder en face et de dire « voilà, j'ai essayé de changer parce que ça n'allait pas ».
Écoutez, quand les gens viennent, je pense, dans ce genre d'émission, c'est que c'est des gens qui sont en train de faire des voyages intérieurs. Ils ont envie de se découvrir, ils ont envie de comprendre qui elles sont, ils ont envie de mettre le doigt sur des problématiques qui les concernent directement, au lieu de pointer toujours un doigt accusateur. Effectivement, c'est une impression globale que je partage parfaitement.
Merci pour l'hommage. Une dernière auditrice en ligne, on prend la direction de la Guinée.
RFI à Conakry, 89.9 FM.
Aminata, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors Aminata, vous êtes plutôt du genre à ne rien garder pour vous. Est-ce que c'est comme ça depuis toujours ?
Oui, depuis toujours, sauf qu'on me fait quelque chose. Je ne peux pas garder parce que garder après, ça me fait mal, je deviens rancunière. Donc j'opte pour dire à la personne ce que je ressens. Et le souci, c'est que quand je suis énervée, je dis de n'importe quoi, tout ce qui me passe par la tête pour me soulager.
Vous dites tout ce que vous avez sur le cœur, quelle que soit la personne qui est en face de vous.
Bon, ça dépend. Par moment, si c'est un aîné, là, je préfère pleurer en silence. Et avec le temps, ça passe, j'oublie. Mais par contre, si c'est une personne qui est égale à moi, mon ami par exemple, ou une amie, là, je lui dis carrément ce que je pense. Parce que garder, ça me brûle à l'intérieur. À chaque fois que je te vois, je suis énervée et ça se sent directement sur mon visage.
Aminata, vous dites ce que vous pensez ou vous criez ce que vous pensez?
Par moment, j'écris, ça dépend des circonstances. Si ça ne me fait pas trop mal, mais que ça me dérange, là, je t'appelle, je te préviens. Je te dis, écoute, tu m'as fait ça l'autre jour ou bien tu m'as fait ça maintenant, ça ne me plaît pas. Prochainement, essaye de changer. Maintenant, si la personne persiste à faire la même chose, là, je me dis, elle se fout de moi et là, j'éclate.
Ça fait deux fois, Aminata, que vous dites, ça me fait mal. Est-ce que ça vous fait mal physiquement? Est-ce que quand quelqu'un vous énerve, vous avez mal au ventre, vous êtes crispé, vous avez mal à la mâchoire, votre corps le ressent?
Mon corps, je tremble parce que je n'ai pas dit ce que je pense. Quand on me voit, même on parle, parce que je change carrément de visage, je ne sais pas, je deviens plus noire que je ne le suis déjà. Donc, parler, discuter ou crier me permet de soulager et de passer à autre chose.
Est-ce que ça vous vaut des problèmes, cet énervement?
Oui. J'ai peu d'amis, surtout côté filles. Je ne m'entends pas du tout avec les filles. Donc, j'ai perdu une amie par rapport à ça. Et ma sœur aussi, on n'est pas en bon terme, elle et moi. J'ai mis une barrière entre nous, on ne discute pas de trop comme avant.
Est-ce que souvent vous regrettez vos emportements?
Oui, par moment je regrette. Mais après, derrière, je ne peux plus revenir en arrière.
Ça veut dire que vous ne pouvez pas aller voir votre sœur en disant « Voilà, là, j'ai crié, j'ai exagéré. Je m'excuse pour ce comportement qui n'était pas le bon. » Vous n'arrivez pas à faire ça?
Honnêtement, non.
Vous êtes rancunière, Aminata, ou vous êtes fière?
Bon, je n'appelle pas ça rancunière, être rancunière, moi. Parce que je me dis après... C'est bon, je l'ai dit, je me sens bien comme ça. Du moment où tu ne m'apportes pas d'amis, je me sens bien.
Ça va même si les personnes ne vous parlent plus après? Ça ne vous fait pas de la peine de perdre des relations?
Par moment, si, dans d'autres circonstances, mais le plus souvent, quand je tourne la page, je ne reviens plus.
Est-ce que, Aminata, vous avez envie d'apprendre à ne plus être énervée?
Je voudrais bien.
Et je pense que c'est la question que vous souhaiteriez poser au professeur Fay qui est à l'écoute, qui a suivi notre échange. Comment gérer cette nervosité? Comment arrêter? Il y a une expression triviale qu'on utilise en France. Comment arrêter de monter dans les tours?
Oui. Aminata, effectivement, ce qui pose problème, c'est l'intensité de la colère qu'elle ressent. Et une fois que son interlocuteur ou interlocutrice est devant elle, elle lui balance tout. Malheureusement, ça casse les relations. Et même chez elle, ça génère quand même une toute légère culpabilité, du regret. Et ça devient irrécupérable parce qu'elle n'a pas la possibilité de retourner vers cette personne. Alors, le conseil, c'est que quand vous ressentez autant de colère, essayez de vous déconnecter de la situation. Essayez d'aller faire autre chose ou mieux encore, si vous savez écrire, Aminata, prenez un papier et écrivez toutes les choses violentes qui vous passent par la tête, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de faire à la personne. Et chaque fois que vous écrivez, déchirez le papier, jetez à la poubelle. Déchirez le papier, jetez à la poubelle. Autant de fois que nécessaire, parce que ça permet d'atténuer les ruminations. Et une fois que vous serez beaucoup plus calme, vous allez parler à cette personne. Mais ce qu'on entend aussi à travers ce qu'Aminata dit, c'est qu'elle avertit la personne, sauf que l'autre ne l'entend pas. Et du coup, elle se sent parfois obligée d'être peut-être un peu plus violente verbalement pour se faire entendre. Mais c'est le genre de personnes, Aminata, qui ont besoin de dire les choses parce que sinon ça les consume à l'intérieur.
Aminata, vous en pensez quoi des conseils que vient de vous donner à l'instant le professeur Fay, notamment ces petits mots pour vous défouler sur le papier et ne plus vous défouler en face à face?
C'est des bons conseils. Je ne sais pas si j'arriverai à dépasser ce stade où lorsqu'on me fait du mal, où on me blesse ou bien qu'on me dit quelque chose qui ne me convient pas, sans le lui dire au fait, attendre que je sois calme pour revenir. Le plus souvent pour moi, c'est quand c'est chaud, je réagis. Après, c'est un peu compliqué.
Vous voudriez finalement, Aminata, que les gens composent avec votre esprit, on va dire sans vous stigmatiser, mais avec votre colère, qu'ils fassent attention à vous peut-être un petit peu davantage.
Oui, mais si c'est une première fois, je comprends la personne. Elle ne peut pas lire dans mes pensées pour savoir est-ce que j'aime telle chose ou est-ce que je n'aime pas. Mais quand je l'avertis pour une première fois, la personne elle est censée comprendre. Parce que moi, si on me dit je n'aime pas ça, non seulement je m'excuse et après, je fais attention à ne pas répéter.
Aminata, est-ce qu'il y a quand même des personnes à qui vous parlez la première fois et qui comprennent? Est-ce que c'est toutes les personnes qui ne comprennent pas?
C'est pratiquement avec les filles, je ne me comprends pas. Quand c'est les hommes, lorsque je dis une fois, je n'aime pas, on discute et après, la personne, elle ne refait plus la même chose.
Ok, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il faut essayer de comprendre, surtout quand vous avez une bonne amie, quel est le regard qu'elle a sur vous pour essayer un peu de cerner aussi comment les gens vous perçoivent, comment est-ce qu'ils vous analysent. Quand on vous dit que vous êtes trop exigeante, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Parce que la meilleure manière d'aborder le conflit, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on le dit souvent, nous cherchons à résoudre les conflits, mais avec un langage conflictuel. Parce que tout le temps, le conflit est posé en termes de comportement qu'on pointe chez l'autre. Mais on ne dit pas exactement le besoin qui a été frustré par le comportement de l'autre. C'est-à-dire, si je vous demandais à une fille, en quoi mon comportement vous frustre? En quoi je vous parais exigeante? Quand vous dites que je suis exigeante, qu'est-ce que ça vous fait? Poser ces questions à une amie, ça vous permettra d'être beaucoup plus au clair avec ça. Et maintenant, il y a une autre partie, c'est qu'il y a des gens qui sont quand même dans la provocation. Ça veut dire que vous leur dites des choses, ils refusent de vous entendre. C'est normal qu'à un moment donné, puisqu'ils ne veulent pas entendre vos besoins, vous vous éloignez d'eux. Mais pour des personnes qui comprennent, utilisez un ton calme au début. Après, vous avez le droit aussi de hausser le ton, parce que tout simplement, vous ne faites pas entendre.
On vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Aminata, pour votre intervention dans Priorité Santé. Merci. Et c'est avec une chanson de votre choix, Aminata, qu'on va se dire au revoir à vous, hein, notamment professeur Pape Lamine Faye. Merci beaucoup pour votre disponibilité. On vous souhaite une excellente journée à Dakar, où l'on remercie encore toute l'équipe présente dans les studios de RFI en Mandinkan et Foulfoulde. Cette chanson choisie par Aminata, c'est Papa, interprété par Dadju.
Y a plus rien à manger, tu m'as laissé tomber. T'as dit que tu reviendrais, mais t'es jamais rentré. L'école m'a demandé, ton papa où est-ce qu'il est? J'ai dit que tu reviendrais, mais t'es jamais rentré. Papa, t'es où, papa? Maman plaire au papa, t'es où, papa? Papa, papa. Maman plaire au papa, il t'es où papa, oh. Mon rêve c'était pas de devenir pompier, je voulais te ressembler dans pied mon pied. Pour moi tu étais l'homme le plus puissant du monde entier. L'une des seules personnes à qui je pouvais me confier. À l'école tout le monde en rit, je suis fatigué de les corriger. Mon papa va revenir, je sais qu'il nous aime, il est obligé. Je sais plus comment réagir, ils sont pas à ma place, ils peuvent pas piger. Au final j'ai plus d'amis, et je crois que c'est ta faute si je suis négligé.
Y'a plus rien à manger,
et tu m'as
laissé tomber.
Dis-moi t'es où,
t'as dit que tu reviendrais, mais t'es jamais rentré.
T'es jamais rentré. Papa, t'es où, papa? Maman plaire au papa, t'es où, papa? Papa, papa, t'es où, papa? Maman plaire au papa, t'es où, papa?
Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui fabrique et réalise votre émission. C'est tout ça maqué. Ophélie Lassène, Didier Bleu, Jean-Philippe Thury, à Dakar, Maïmouna Diop et Souleymane Ndiaye. Lundi dans Priorité Santé, on va parler de la surdité. Trouble sensoriel le plus fréquent, prévention, prise en charge. On se dit à lundi. D'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner durant cette année d'excellence. Bonne année.
Session Lab.